Bonjour. Nous vous proposons ce jour une émission réalisée à partir du témoignage de Mado Kapievic. Madeleine Pfefferkorn est née le 28 juillet 1924 dans le 12e arrondissement à Paris. Elle est donc âgée de 91 ans au moment de l'enregistrement de ce témoignage. Elle est une résistante de la première heure. Songez qu'elle a participé à la manifestation de l'Arc de Triomphe du 11 novembre 1940 et que ce n'était pas sa première action puisque dès 1939 elle diffusait des tracts contre Hitler, comme elle va nous le dire. Toujours parmi nous, elle fait partie de ces rares résistantes et résistants de la première heure. Son combat, elle le mena avec beaucoup de courage et aussi avec beaucoup de chance pour n'avoir pas été arrêtée compte tenu de son intense activité exposée, et ce jusqu'à la libération. Elle a jusqu'ici très peu témoigné, préférant rester une résistante anonyme. Dès 1940, elle rencontra Jonathan Kapkiewicz, né en Pologne en 1923, émigré avec sa famille. Il résidait à Paris dans le 11e arrondissement, où dès 1937 il était déjà membre des jeunesses communistes. En 1940, il était contraint à la clandestinité pour mener sa lutte et il organisa les premiers groupes de l'organisation spéciale. Dès ce moment-là, les deux amis luttèrent ensemble et ils s'uniront pour la vie par la suite. Jean Kapkiewicz entra après-guerre intensément dans la vie politique et fut secrétaire général du PC du Rhône de 1962 à 1977, membre du comité central de 1962 à 1979, puis maire de Vaux-en-Velin de 1977 à 1985. Il est décédé le 30 décembre 2002. Cette émission a été réalisée à partir d'une captation de son lors d'une intervention de Madeleine Kapkiewicz à l'initiative de la Nacre de Vaux-en-Velin dans l'école Makarenko B, la classe de CM2 de Madame Chloé Gillot, le 22 mai 2015. La captation a subi un montage sonore pour aboutir à l'émission que vous allez entendre. Il est bien clair que le témoignage de Mado Kapkiewicz venant s'ajouter à beaucoup d'autres témoignages de résistants, il est un des derniers que nous pouvons encore obtenir avant que tous ces événements ne passent à l'histoire. Nous la remercions vivement, ainsi que Marius Pellet de l'Anacre de Vaux-en-Velin, infatigable propagandiste de la mémoire de la résistance, sans qui tout cela n'aurait pas été possible.
Il y a eu le Front populaire. Ça veut dire que un peu partout en France, les usines ont fermé, les ouvriers ont fait grève, et puis ils ont réussi. Et ça a amené de bonnes mesures pour, en général, disons, le peuple, quoi. Et puis, et oui, et tout ça chez moi. Bon, j'avais un papa qui lisait le journal Humanité. Et en 1936, il a pris sa carte au Parti communiste. Alors, vous voyez, déjà, ça aide un peu d'avoir des idées, comment on pourrait dire, des idées de gauche. Oui, alors à cette époque, moi, j'avais 15 ans. à ce moment-là, à cet âge-là, on a plein d'amis, on fait un tas de trucs, enfin bon, on se réunit ensemble. Et j'avais donc des amis qui étaient, moi j'y étais pas du reste, mais il y avait des amis qui étaient à la Genève communiste. Et quand il y a eu ces interdictions, tous ces jeunes, les adultes aussi, mais bon, on ne savait pas, mais tous ces jeunes ont dit il faut faire quelque chose, c'est pas. Bon, je me suis retrouvée à 15 ans à faire ce qu'on appelait des stencils. On mettait ça dans une renéotype, c'est comme ça qu'on dit. On disait Roméo, tout simplement, un truc qu'on faisait tourner à la main, on mettait du papier et ça sortait ce qu'on appelait des tracts. Donc, je faisais des trucs comme ça. Alors, on s'est retrouvés dans ce 11e arrondissement, on faisait... les premiers temps, on avait des tracts et on était au premier étage, on allait souvent au cinéma. Hein. Alors on se retrouvait au premier étage, il y avait des balcons et on lançait des tracts pour tous les gens qui étaient plus en bas. Et à cette époque, quand... oui, c'est ça, c'est arrivé qu'on le fasse, il y avait la lumière parce que c'était... l'entracte, après ça a toujours été, ça a été, dans les cinémas, il y avait des endroits où ils laissaient la lumière pour qu'il n'y ait pas ces tracts. Bon, on mettait ces tracts, on faisait des inscriptions sur les murs, maintenant ça s'appelle des tags, hein. On collait des petits papillons, tout ça c'était, je ne me rappelle plus bien, mais c'était Abba Hitler, Vive, à l'époque c'était Vive l'URSS, l'URSS c'est l'Union Soviétique, c'est les Russes. Hein. Bon, il y avait plein, alors moi j'aidais un petit peu, je travaillais un peu avec ma mère qui travaillait la nuit. Alors la nuit à 3h le matin, je sortais, puis il n'y avait personne hein, dans les rues. Alors je collais mes papillons, c'est encore un truc que je me rappelle bien. Il n'y avait vraiment personne, et il fallait quand même regarder. Enfin bon, on se retrouve, alors on fait ce travail.
Juin 1940.
En 1940, à une place de la Nation à Paris, j'ai vu, j'étais avec des amis, avec un ami, dont sur cette place, quand sont arrivés les Allemands, ils étaient ceux-là qu'on a vus en premier. Ils étaient en 6 quarts. Donc, sur ce truc-là, ils étaient deux. Et alors, c'était absolument... tout ça, c'était pas gay, hein. Mais ces types, tout en vert, casqués... alors, tous avaient des chaînes. Ça devait être la mode chez eux, mais ça voulait dire quelque chose. Des grosses chaînes... Et alors, ils allaient tout droit comme ça, le regard vide, sans... Ils bougeaient pas, hop, ils allaient comme ça. Et alors, il y avait la foule qui regardait, et tout le monde, moi, à cet endroit-là, on était stupéfaits. Et ils étaient tellement bizarres que, tout compte fait, il faisait peur. Il faisait peur parce que... et puis ça défilait, il y en avait, etc. Alors ça a été notre première, si on peut dire, première entrevue avec les Allemands. Et... bon, alors quand on voit des types comme ça, puis avec un peu l'éducation qu'on avait, on se dit, mais c'est pas possible, on n'en veut pas. Bon, et tous ces jeunes, oui, c'est, l'idée c'est, bon, les Allemands, les nazis, parce que c'était, il y avait Hitler, enfin, etc., on ne peut pas les garder à la porte. Et j'habitais à côté... du 11e arrondissement à Paris. C'est un arrondissement, il n'y a pas que ça, mais un arrondissement ouvrier, il y a beaucoup d'ouvriers. Et moi j'habitais à côté, mais j'avais un bon camarade. Bon camarade, c'est M. Kapiewicz. Peut-être que vous en avez entendu parler, mais dès 40, bon, il y avait ce bon camarade. Et on décide à plusieurs de dire il faut faire quelque chose, c'est pas possible. Il y a eu une très grande manifestation à l'Arc de Triomphe. C'était le 11 novembre, pour le 11 novembre, la commémoration de la guerre de 14. Et cette manifestation a été organisée par les étudiants. Parce qu'ils avaient un très grand professeur qui avait été arrêté et pour eux, ce n'était pas possible. Alors, cette première manifestation à laquelle, avec les Allemands, hein, on a fait bloc énormément de jeunes, d'adultes, bon, déjà, c'était pour la première fois, il y avait la police française, on en reparlera, mais les Allemands ne nous ont pas laissé faire, et il y a eu déjà des arrestations... enfin, ils ont foncé dans la foule. Bon, on a commencé par ça. En juin 41, c'était un dimanche, et les Allemands ont envahi ce qu'on appelait l'Union soviétique, les Russes. Hein. Et à cette époque, en juin 41, on avait, pendant deux jours, on était partis camper, parce qu'on était quand même des vrais campeurs aussi. On était partis camper et on était, je ne sais plus où, mais on était à l'est de Paris. Et quand on partait de la gare pour aller dans l'endroit où on voulait aller, il y avait encore un pont, il y en a des histoires de pont, il y avait encore un pont, et tout le samedi, on a vu défiler des trains, ça n'arrêtait pas, des trains. Alors, sur les trains, il y avait des voitures, des camions, des chars, on se demandait ce que c'était, puis c'est tout. Et quand on est rentré le dimanche soir, et ils avaient envahi l'Union soviétique le dimanche matin, enfin, j'en sais trop rien, mais quand on est arrivé à la gare de l'Est à Paris, le soir, c'était très, très drôle, c'était tout le monde, mais vraiment, tous les gens qu'on a pu voir, et notamment, c'est encore un souvenir, à l'époque, quand on sortait, il fallait donner son billet, on donnait son billet. Bon. On donne notre billet au contrôleur, et le contrôleur a dit, il y a les Russes qui sont en guerre, et il était content. Et tout le monde, à cette époque, était content. Alors disons, on n'a pas ri, mais on était joyeux. On arrive en août 1941. Les responsables de ces jeunes chez nous organisent une manifestation. On se retrouve sur les grands boulevards vers l'opéra, enfin un petit peu après. Et cette manifestation, elle ne s'est pas faite à l'heure qu'il fallait, à l'endroit qu'il fallait, pour des raisons diverses. Dénonciation, il y avait beaucoup, c'était la gare du Nord, il y avait beaucoup d'agents, il y avait plein de voitures aussi, enfin bon. Donc on a changé le lieu de la manifestation et ça a retardé. Ça fait que quand on a démarré sur les grands boulevards, il était déjà un peu tard, il y avait moins de monde, et bon, on y est allé quand même, drapeau en tête, et il y a eu un film ou un documentaire où effectivement on voit cette manifestation, et bon, on y va gaiement, et puis ça s'est soldé, ça n'a pas été terrible, parce que les Allemands sont arrivés presque aussitôt avec ces fameux sidecars, parce qu'ils pouvaient naviguer comme ils voulaient. Et ça a été, ça pouvait pas être autrement, ça a été la débandade. Et moi, je me rappelle, à l'époque, les chaussures, on avait des chaussures en bois, parce qu'il n'y avait plus de cuir, il n'y avait plus de trucs comme ça. Alors moi, j'avais des petites chaussures en bois, et je cours, et puis je cours si bien que je tombe. Et on était plusieurs, on avait les Allemands qui étaient à, je sais pas moi, à 20-30 mètres, et puis il y avait ceux qui étaient à pied. Enfin, il faut connaître où c'est, mais pendant un moment, on ne savait plus quoi faire, on tourne, il y a une rue, bon, on prend la rue, et je vais pour courir tout le temps, mais Il y a une... Alors c'est ce que j'appelle moi la chance. Je n'ai pas donné d'autres mots. Il y a une porte qui s'ouvre. Je m'enfile dans la porte. Et c'était un artisan ébéniste, un truc comme ça, qui s'était rendu compte, enfin, et qui a ouvert sa porte à ceux qui pouvaient rentrer. Bon, moi je rentre là-dedans. Et puis il y avait déjà au moins une dizaine de camarades, dont des camarades plus, disons, un peu supérieurs, enfin bon, mais je les connaissais de vue. Ça fait qu'on a échappé de ce côté, de, mettons à gauche de, ces de ce boulevard, on s'en est sorti, ce qui pourrait être ce côté, mais sur le côté droit, il y a d'autres camarades qui sont rentrés dans une autre, autant ceux que je connaissais là, qui sont rentrés dans une maison. Et les Allemands ont fouillé tous les appartements, sont allés dans les caves et ont trouvé nos deux camarades qu'on connaissait bien. Il y en a un, c'était camarade, disons camarade, hein, camarade Gautreau, et l'autre Titi Tiselman. Il avait 16 ans. Alors, ils ont été arrêtés le 13. Ils ont été jugés. Et le 19 août, ils ont été fusillés. Et c'était disons, les premiers, pas les premiers, il y en a eu d'autres en France déjà, mais pour nous, les jeunes du 11e arrondissement, c'était nos premiers morts. Entre ces manifestations, parce qu'il va y en avoir d'autres, on avait ce qu'on appelait une planque, se cacher, hein, une planque, c'est-à-dire, il y avait, moi je me rappelle bien, il y avait deux pièces, et c'est là où il y avait cette fameuse Ronéo, là, qui faisait les tracts, il y avait Ronéo, machine à écrire, et puis il y avait quelques revolvers, parce que bon, ça viendra ça, il y avait quelques revolvers. On était au dernier étage d'un grand immeuble, sous ce qu'on appelle sous les combes, et ils avaient fait tomber le plâtre pour qu'on puisse mettre ces outils, là, Ronéo, etc. Et puis ils avaient mis un galandage, un petit peu de bois, là, enfin bon, la peinture. On ne peut pas dire que ça se voyait, mais c'était pas un truc, c'était bien, bon. Et ça nous permettait de faire, moi j'y allais deux fois par semaine, hein. Alors je tapais à la machine, quand il fallait machiner la Ronéo, là, bon, on faisait aussi. Et puis après, bon, ben, je repartais, et en général, j'étais seule. Je vous dis, j'étais seule parce que, il y a peut-être une année, je suis tombée sur un livre où ils disent, j'en savais rien du tout, ils expliquaient que cette planque, elle était prise journellement. Moi, j'avais l'impression d'être toute seule, vous voyez. Mais qu'elle était prise journellement, tous les autres jours, par d'autres camarades qui devaient aussi faire des trucs. Enfin bon, et je n'en savais rien. Et tout ça pour vous dire qu'un jour, entre-temps, alors là, je vous ai parlé du 13 août, du 19, le 21 août, au métro Barbès-Rochechouart, il y a ce qu'on a appelé après le coup de feu de Fabien. Le colonel Fabien. Et il était accompagné de trois autres camarades, dont deux que je connaissais bien. Que je connaissais bien. Et alors, Fabien a tué cet officier de marine qui allait rentrer dans le wagon des premières, évidemment. Et de là, ils l'ont tué. Et ils sont partis à toute vitesse. Ils les ont cherchés, ils ne les ont pas trouvés. Ils les ont cherchés pendant, toute la journée, ça a été... Et quand ils ont eu fait secours, il y a un camarade qui s'appelait Brucelin, qui a dit, c'était son copain, vraiment son camarade à lui, a dit, on a vengé Titi. Titi, c'était Tiselman. Dans le 11e arrondissement, il y avait beaucoup de camarades immigrés. Si ce n'était pas eux, ils étaient français, c'est les parents qui venaient de Pologne, qui venaient de Roumanie, d'Italie, d'Espagne. On avait beaucoup de camarades comme ça, mais on n'en parlait pas parce que c'était à l'époque, en tous les cas pour nous, c'était vraiment une chose tout à fait naturelle. C'était des Parisiens, des Parigots, comme on disait, avec cet esprit de camaraderie qu'on avait. Vous voyez, on n'y pensait pas. C'était tout à fait normal. Et on se trouve avec ce Gilbert de Brucelin, la planque dont je vous ai parlé, il y habitait, il y logeait. Il y habitait pas souvent, mais il y dormait quand il faisait pas le coup de feu à un endroit donné avec d'autres. Enfin, parce que ce que je vous raconte là des manifestations ou ce Barbès, dans toute la France, il y avait aussi des ce qu'ils appelaient des attentats, des trains. On avait peut-être pas tous les jours, mais des trains qui sautaient, enfin des trucs, des déboulonnages de rails, ça existait un peu partout, comme des fois, nous on était dans le 11e, mais c'était partout pareil. Ce Gilbert Brucelin, un jour il arrive, parce que je vous dis ça parce que j'y étais, je me rappelle, il y a des choses, je ne me rappelle pas, mais là je me rappelle bien. Un matin, alors je dois aller l'après-midi tirer mes trucs, et un matin, il y a le journal à la maison. Et alors, je regarde, je dis, mais c'est quoi ce truc? Il y avait un grand portrait de ce camarade Brucelin, il s'appelait Gilbert, de Gilbert. Il était recherché par toutes les polices de France, par la Gestapo, et de ce jour-là, il a eu un parcours absolument extraordinaire. Il est resté dans Paris le temps que après il s'est retrouvé en Suisse, il s'est retrouvé en Espagne. D'Espagne, il a pu avoir un bateau. Il a été avant en Algérie. Après, il y a eu un bateau, il s'est retrouvé en Angleterre, enfin un parcours de fou, Et c'est un des, en tous les cas, c'est un des seuls qui n'est pas mort, hein, parce qu'on a eu tellement de fusillés, enfin bon. Et alors, je regarde dans mon journal, alors je dis, c'est pas... Alors oui, il y avait le portrait du gars qui cherchait, et en plus, il y avait une photo, et c'est ça qui était, si on peut dire, qui était drôle, comme quoi... Ils avaient découvert, oui, ils étaient allés, c'est ça, ils étaient allés dans la planque et n'avaient pas trouvé le broussin. Et ils avaient découvert là où on mettait la Roneo, la machine à écrire, bon. Et ils en ont fait une histoire ils ont monté ça comme une pièce de théâtre, que c'était... une cache absolument extraordinaire de tous ces terroristes, oui, parce qu'on était des terroristes, qui n'avaient vraiment rien à voir avec la réalité, mais ça, c'était aussi pour faire peur, j'imagine, à la population. Alors, en voyant ça sur le journal, évidemment, je n'y vais pas. Et c'est là où je reparle de chance, en me disant, si j'avais pas eu, ça pouvait fort bien arriver, si j'avais pas eu le journal, eh ben j'allais comme tout le temps, j'avais pas été prévenu, c'était et Gestapo et police française, mais je sais plus comment on les appelait. Enfin bon, il n'y a pas de problème, j'y allais normalement. Alors j'ai... Ça fait plaisir, si on peut dire, de ne pas être allé. Et un qui avait aidé disons, l'attentat de Barbès Rochechouart, c'était un garçon qui s'appelait Fernand Zalkinov. Fernand Zalkinov, ben, ça devait être un Polonais. Brucelin, c'était un Alsacien. Le colonel Fabien, c'était un Français. Et les autres, mettons aussi, je vous dis, Zalkinov, il était d'origine polonaise, mais bon, il a toujours vécu en France. Et on se retrouve avec, pour dire, Zalkinov, c'est un truc que j'ai trouvé aussi après, il habitait aussi à cette même planque, il y couchait, et c'est là qu'un jour il s'est fait arrêter. Et puis, enfin bon, il s'est fait arrêter. Et on a été une fois, tous les deux, il y avait un truc à faire, enfin bon, on est devenus campeurs. Un soir, on prend le métro, après je ne sais plus quoi, et on se retrouve dans la grande banlieue parisienne. Je ne me rappelle plus où, enfin bon. Et on plante la tente sous un petit pont où il y avait une rivière, sous un petit pont. Et puis on attend. Quand il fait bien nuit, vers les 2h du matin, allez hop, on s'en va. Et lui savait, moi je suivais. Et alors, c'est encore un truc dont on se rappelle bien. Alors, une nuit noire, et on fait, je ne sais pas moi, 300-400 mètres, et on entend bam, 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 bam. Il passe, alors là, s'il y a des garçons qui savent, ils pourraient me dire. Alors bon, vous voyez, 2-3 heures le matin, il fait tout noir, etc. On entend, on dit, ah, les Allemands. Et on a la chance de pouvoir, disons, se cacher. Enfin bon, on arrive à se cacher avec la chance, parce que 100 mètres après, c'était tout découvert, et 100 mètres avant, c'était découvert. Bon, on a eu du pot, comme on dit. Et les Allemands, alors ils se battent, ils étaient... C'est là où moi, j'en sais rien du tout. Je sais pas si on appelle ça une unité ou un truc comme ça. Ils gardaient, peut-être. Et ils étaient une vingtaine fusils, ils marchaient au pas, boum, 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 bon, on les laisse passer, on recommence à marcher, et arrivé un moment, on était déjà un peu dans la campagne. Il arrive un moment, il y a un tunnel, et alors là, c'est un truc bizarre, mais c'est vraiment une des peurs de ma vie. Ce tunnel, j'avais des baskets. Ça ne fait pas de bruit. Hein. Mon camarade Zalkinov, lui, il avait, et c'était pas la mode, c'était comme ça à cette époque, il avait des gros souliers et tout clouté derrière. C'était la mode. Hein. Et tout clouté derrière, et chaque bon vrai campeur avait des souliers comme ça. On rentre dans ce tunnel. Alors, vous voyez, 3 heures le matin, tout noir. Ça faisait un bruit, il y avait une résonance. Et alors, il me fait une espèce de... Pas de panique, c'était dedans, hein. Mais c'était tellement bizarre, ce bruit. Enfin, bon... Enfin, j'ai rien dit, ça servait à rien. Il avait ses chaussures et c'est tout. Bon, on sort du... Mais moi, j'avais la frousse. On sort du tunnel, et alors, on se trouve en pleine campagne. Alors, il dit, qu'est-ce qu'on fait ? On reste sur ce petit chemin ou on descend sur les rails. Il y avait peut-être, je sais pas moi, 2-3 mètres ou plus pour descendre sur la voie ferrée. Bon, moi je dis, on reste en haut. On fait quelques 100 mètres et d'un coup on entend des voix. C'était des Français, mais on entend des voix. C'était une patrouille de, je sais pas moi, des chemins de fer ou je sais pas quoi. Qui passait pour, j'imagine, contrôler si les rails étaient bien, ou enfin on n'en sait trop rien, mais c'est toujours le même truc, disons la chance, le hasard. Nous on était en haut, ils nous voient, on se cache, ils nous voient pas. Si on avait été en bas, on était bon, hein. Et on continue, et puis de là, arrivé à bon, alors oui, cette nuit noire, etc. Il y avait au loin, il y avait les chiens. Alors, ça, je ne sais pas si c'était nous qui nous sentaient, enfin bon. Et ils gueulaient, ces chiens aboyaient. Alors, ça faisait vraiment, c'était bizarre. Je sais pas, un peu comme au cinéma. Le copain, il arrive à trouver ce qu'il voulait faire. Alors, je ne sais pas, il y avait une très, très grande boîte. Il a ouvert la boîte. Bon, alors moi, il fallait que je regarde partout s'il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Alors, il l'a fait, je ne sais pas. Et on est reparti. Et ce faire... Alors, bon, c'est pour vous dire, ça, c'était une préparation d'attentat contre... contre les trains ou un train, enfin bon, c'était ce que faisait en permanence on peut dire en permanence les camarades. Et alors j'en viens à ce Fernand Zalkinov, il a été arrêté le 4 mars 42. Les Allemands, il a été jugé à l'Assemblée nationale. Il n'y avait plus l'Assemblée nationale, mais dans cet édifice. Et les Allemands en ont fait un grand truc. Et de là, bon, alors je vais aller un peu plus vite. Il a, oui, arrêté le 4 mars. Il a été exécuté le 9 mars au Mont-Valérien avec six autres camarades du 11e. Alors, qu'on connaissait ou qu'on ne connaissait pas, parce que à l'époque, au début, on se connaissait tous, c'était une bande de copains, on se connaissait tous. Mais après, il y en a d'autres qui sont venus, et pour faire attention, pour ne pas être dénoncé, pour qu'on soit, disons, plus tranquille, ça marchait par petits groupes. Et il y en a plein qu'on ne connaissait plus. Et alors, dans ces camarades, il y en a, je vous dis, là, 6 du 11e, et il y en a eu d'autres arrondissements, mais bon, ils ont été exécutés. Et ce Fernand, quand il a été exécuté, il avait 19 ans, et il paraît que c'était je ne savais pas, mais un garçon bien, à l'école, il travaillait bon, et il voulait, surtout à l'époque en tous les cas, son rêve quand il était plus jeune, c'était de devenir professeur d'allemand. Pas trop, hein. Oui, à cette époque, 41-42, il y a énormément d'arrestations. Avec ces arrestations, selon où, à quel endroit on était, enfin bon, on pouvait plus rien faire. Il y avait plus, sur le coup, il n'y avait plus personne. Alors on pouvait rester des semaines, et peut-être des mois, je ne me rappelle plus, mais sans rien, on était, disons, en vacances forcées. Et par rapport à moi, hein, je suis venue pour ça, je me retrouve un jour, il y a quelqu'un qui doit revenir me voir, enfin bon, et je deviens qu'ils appellent un agent de liaison. Alors, l'agent de liaison, c'est simple, il va d'un garçon à un autre garçon, ou une fille, moi c'était des garçons. Et puis, il transporte, une fois j'ai eu un paquet, il transporte des lettres, des paquets, et on ne sait jamais, et on ne sait pas ce que c'est, heureusement, du reste. Mais enfin, bon, des fois, on m'a dit, « Oh, c'était quoi ?» Aucune idée. Et puis, on va les remettre à un autre. Et puis, on a fixé un rendez-vous, et puis ça recommence, comme ça, pendant des mois. Et moi, j'avais affaire à un... J'avais 17 ans à l'époque, un truc comme ça. Et c'était déjà un vieux, un monsieur, il devait avoir 40-45 ans, vous voyez. Et je vous dis ça parce que j'ai su, parce qu'on ne se connaissait pas, j'ai su plus tard que ce monsieur, c'était un commandant dans la résistance, oui, parce qu'il y avait quand même des grades pour certains, c'était un commandant de la résistance. Il s'appelait Batlin, il était français d'origine russe. Et quoi ? Ah oui, il a fait, je m'en suis aperçu, j'ai reconnu, j'ai vu son portrait dans un livre il y a quelques mois. Et j'ai dit, ah, mais c'était lui, enfin bon, Et il a fait un très très gros livre où il a recensé, et c'est des trucs qu'il devait me donner, j'imagine à l'époque, il a recensé, alors en France, il chapeautait très haut, j'imagine, tous les déraillements, les déraillements, les incendies de fourrage dans les campagnes, pour les Allemands, hein, les chevaux qu'on faisait fuir, enfin, il y a tout ça dans un livre qui a peut-être 300 pages, je ne sais pas si vous... Et c'était de toute la France, et comme quoi nous, on était vraiment un petit... on n'était pas grand-chose. Bon, un jour, ces liaisons, ça s'arrête, et je me retrouve... Ah oui, on m'envoie dans le Nord et le Pas-de-Calais. Bon, pauvre. On m'envoie dans le Nord et le Pas-de-Calais pour... Alors, toujours avec ce commandant Mateline, là, comment s'occuper du parcours de prisonniers soviétiques russes, qui se sont évadés de camp, ils sont arrivés dans le Nord, là, comme ça, enfin bon, et il fallait les transporter à Paris. Alors, ces Russes, ben, mon Dieu, les quelques gars que j'ai eus, bon, ils ne parlaient pas français, ils étaient habillés français, mais ils ne faisaient pas quand même des habits français, c'était bizarre, et il fallait surtout pas qu'ils parlent, alors ou c'était le train, ou c'était des camions, enfin des trucs comme ça, et on arrivait à Paris. Bon, j'en ai pas fait beaucoup, parce que c'était vraiment très difficile, le parcours, si on peut dire, pour revenir, pour aller, on était seul, bon, il n'y avait pas de problème, mais le retour, c'était pas simple, parce qu'à cette époque, les chemins de fer, c'était détérioré, enfin bon, ça marchait pas bien. Les camions, il fallait qu'ils veuillent bien nous prendre quand on faisait du stop. Enfin bon, c'était une vie vraiment très très bizarre. Et puis ouais, c'est ça. En mai-juin, je me retrouve à Paris, je bouge plus. Et le 14 juillet 44, il y en a partout, mais bon, il y a eu une grosse manifestation à Paris, et là, on a vu des femmes habillées en bleu, blanc, rouge. Vous voyez, elles avaient, je ne sais pas, une jupe rouge, un corsage bleu, et puis un petit chapeau blanc, enfin bon, des trucs comme ça. Il y en avait plein de Parisiennes qui s'étaient mis comme ça. Et là, bon, ben, là où on était, on a eu seulement des agents de police, qui étaient beaucoup, vous voyez, on est en 44 là, beaucoup moins virulents, méchants, que les années d'avant. Ils devenaient, agents de la circulation presque. Enfin, nous, hein, parce que à côté de ça, à X kilomètres, il y a même eu des chars allemands, il y a eu des trucs comme ça contre les manifestations à la République, mettons, la place de la République à Paris. Bon, et puis bon, on arrive en août 44, et c'est l'insurrection parisienne. Moi, je me suis retrouvée dans un immeuble que... Ah oui, je vous ai dit, quand je vous parle du commandant, de là, j'étais passée à ce qu'on a appelé j'en savais rien, mais bon, la MOI, c'est-à-dire main-d'œuvre immigrée. Et je me retrouve en 44, alors, dans le quartier latin, dans un immeuble que la MOI ou les camarades ont réussi à, je ne sais plus comment, et c'est là que effectivement on a des camarades qui, aux fenêtres, ils font le coup de feu contre les Allemands qui sont, comme on voit à la télé, vraiment, c'est, des fois j'ai regardé en disant, je ne connais pas celui-là, non, ce n'était pas les bonnes fenêtres. Mais, et puis, avec des bouteilles incendiaires, enfin, contre les chars allemands, c'est vraiment une très grosse bataille. Et dans tout Paris, il y avait des barricades, les Parisiens s'étaient levés en masse, ils avaient les pavés de Paris, enfin, bon, les barricades. Et pendant que les autres, là, canardaient les Allemands, moi, on m'envoie, c'était le dernier truc, on m'envoie avec des armes. Alors, ce que je me rappelle par rapport à deux fois, une fois, ça devait être une mitraillette. Alors, il y avait une toile de jute, et puis j'avais ça sur l'épaule. Et puis, une deuxième fois, c'était un gros truc, là, enfin bon, il devait y avoir des revolvers, machin comme ça. Tout ça, c'était pour... On était sur la rive gauche de la Seine, et il fallait passer la Seine, il fallait passer la Seine où il y avait encore des combats avec les Allemands. Alors moi, j'étais avec... C'est le coup de la mitraillette que je me rappelle. Je déambule, et puis il fallait passer un pont, un grand pont sur la Seine. Et bon, je marche, il n'y a personne. Et puis d'un coup, moi, je me dis comment je vais faire. Enfin bon. Et alors, un truc rigolo pour l'époque, un vieux monsieur, il promène son chien. Il n'y a personne. Hein. C'est un endroit où, là, c'est un matin, il n'y a personne. Oh, je dis bon sang. J'ai dit, comme il venait un peu de cet endroit, enfin bon, je lui dis, monsieur, est-ce qu'il y a des Allemands de l'autre côté? C'était vraiment un vieux monsieur. Hein. Alors, il dit, non, mademoiselle, ils sont partis, il n'y a plus personne. Alors bon, j'ai pu traverser mon pont tranquille, et tout ça, c'était pour l'emmener à ce qui était l'ambassade avant, l'ambassade de l'Union soviétique des Russes, qui avait été reprise par les FFI. Bon, puis je donne mes trucs à des gens, oui, qui parlaient mal français, vraiment. Alors, je ne sais pas si c'était l'ambassadeur, sûrement pas, mais bon. Et il voulait se défendre, j'imagine, et il n'avait pas d'armes. Après, il y a eu l'insurrection, il s'est passé encore des petits trucs. Et puis c'est fini, quoi. Il y a encore eu, disons, mon parcours de résistante anonyme, si on peut dire, qu'on ne connaît pas, quoi. Enfin bon, ça arrête là. Mais après, il y a eu, je ne sais plus quelle date, quelques jours. Bon, il y a eu l'entrée des Américains, des Français d'abord, des Américains. Et bon, c'était la grande fiesta. Hein. Et il y a eu, avec le général de Gaulle, il y a eu une grande manifestation de plein de monde. Et nous, on était à la fin de cette manifestation. C'est pareil, aux actualités, on voit De Gaulle et puis tous ceux qui font le gouvernement après. Bon, c'est connu, cette... Mais ce qu'on dit plus, puis qui n'a plus d'importance, ça fait que nous, quasiment les derniers à défiler, on s'est payé la fusillade que les derniers miliciens français qui étaient retranchés sur l'autre côté des Tuileries, sur les grands immeubles, enfin il faut connaître, hein. Ils étaient sur les toits et ils canardaient ceux qui passaient, mais ils l'ont fait qu'à la fin, ils l'ont pas fait au début. C'était une péripétie parmi d'autres, et puis c'est tout.
Ainsi se termine cette émission consacrée au témoignage de Madoka Pievic, résistante anonyme comme elle aime à se présenter. Cette émission a été réalisée à partir d'une captation de son lors d'une intervention de Madeleine Kapievic à l'initiative de l'ANACRE de Vaux-en-Velin dans l'école Makarenko B, l'Atlas de CM2 de Madame Chloé Gillot, le 22 mai 2015. Nous renouvelons nos remerciements à Madeleine Kapievic et à Marius Pellet de l'ANACRE Vaux-en-Velin. Vous avez pu entendre un certain nombre d'illustrations musicales au fil de cette émission. Ce sont de courtes pièces ou extraits de pièces pour piano, composées par Joseph Cosma et interprétées là par Jeff Cohen.
Ah oui, c'était ça que je voulais vous dire. On finira comme ça. C'est un camarade là qui est décédé il n'y a pas longtemps, qui m'avait envoyé une carte de vœux pour la bonne année. Et dans cette carte, il y a, je vous lis, hein, c'est pas lui qui écrit. J'ai découvert ce secret après avoir gravi une haute colline. Tout ce qu'on découvre, c'est qu'il reste beaucoup d'autres collines à gravir. Nelson Mandela.
C'est pas un raciste, il est contre le racisme sur les personnes qui sont noires.
Oui, dans quel pays ça s'est passé? En Afrique du Sud, effectivement.
Et puis, je crois, moi j'ai compris comme ça, c'est que, tu vois, quand tu as franchi une colline, il t'en reste toujours. Et il y a toujours, une fois que tu as fait une chose, et ben, il t'en restera toute ta vie, tu auras des choses. Et alors, par rapport à nous, à ce dont on parle aujourd'hui, c'est que, de tous les problèmes qui peuvent se poser, puis quand vous serez plus grand, enfin, etc., c'est que il faudra essayer, puis il faut essayer toujours de faire pour le mieux et de penser à la paix, à plus de guerre, à des trucs comme ça, tu vois.
C'est fini.
Thank you. Thank you.